On est comme ça, et c'est le journal de Raphaël Delvolvé. Bonjour Raphaël.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Les talibans progressent encore en Afghanistan. De nouvelles capitales provinciales passent sous leur contrôle. Le gouvernement ne contrôle plus que Kaboul. Les États-Unis accélèrent les évacuations de leurs ressortissants. Selon le ministère de l'Intérieur, ils étaient un peu moins nombreux que la semaine dernière. 215 000 opposants au pass sanitaire ont défilé hier avec un épicentre, Toulon, où selon la préfecture du Var, ils étaient 22 000. Et puis à suivre, Gaza pense toujours ses plaies 3 mois après la guerre Hamas-Israël. Et les touristes européens sont bien présents cette année dans l'Hexagone malgré la crise sanitaire. Reportage dans un camping international près de Paris tout à l'heure.
Et puis dans 20 minutes, le premier invité de la matinale, Hugues de Voilemont, porte-parole de la Conférence des évêques de France. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a demandé au préfet de renforcer la sécurité des lieux de culte et des offices après la mort du père Olivier Maire en Vendée. On parlera aussi du 15 août, jour de célébration chez les catholiques, jour de pèlerinage aussi à Lourdes. Comment va Lourdes qui enregistre de lourdes pertes et puis comment va l'église après un an et demi de crise sanitaire. J'y arrive.
France Inter. Deux nouvelles villes stratégiques passent donc sous le contrôle des talibans en Afghanistan. Mazar et Sharif hier soir et Jalalabad ce matin. Le gouvernement ne contrôle plus que Kaboul, la capitale, où l'arrivée prochaine des insurgés semble entendue. Les États-Unis accélèrent l'évacuation de leur personnel américain ou afghan d'ailleurs. Le président Biden envoie des troupes supplémentaires. Précision à New York de Loïc Loury.
Près de 5000 soldats américains bientôt déployés à l'aéroport de Kaboul contre 3000 évoqués jusque-là. Joe Biden l'a annoncé hier dans un communiqué. La majorité est attendue sur place d'ici la fin du week-end pour sécuriser les évacuations. Les troupes supplémentaires arriveront ensuite du Koweït où elles étaient stationnées en cas d'urgence. Voilà qui illustre l'inquiétude des États-Unis face à la progression des talibans. Le président américain d'ailleurs les avertit, toute action qui mettrait en danger nos ressortissants ou notre mission, dit-il, recevrait une réponse militaire rapide et forte. Joe Biden, pour autant, répète ne pas vouloir faire machine arrière, largement critiqué dans son pays face à ce qui, après 20 ans de guerre, ressemble de plus en plus à un départ précipité. Le patron de la Maison-Blanche se justifie une fois encore. Une année ou 5 années de plus de présence américaine, dit-il, n'aurait fait aucune différence quand l'armée afghane ne peut ou ne veut pas défendre son propre pays. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et Joe Biden disait aussi hier sa tristesse et proposait l'aide des États-Unis après le séisme en Haïti de magnitude 7,2. Il a fait au moins 304 morts et 1800 blessés. De nombreux bâtiments se sont effondrés. La terre a de nouveau tremblé ce matin. Une réplique mesurée à 5,9 de magnitude.
Et on reste dans les Caraïbes pour aller aux Antilles où la situation sanitaire est catastrophique.
Le taux d'incidence est maintenant de 1800 cas de Covid pour 100 000 habitants. Les CHU en Martinique et en Guadeloupe sont totalement saturés. 6 patients sont transférés en métropole ce week-end et des soignants sont aussi envoyés en renfort. Guyenne est infirmier à Rennes, il est mobilisé en Guadeloupe, il témoigne.
Ce qu'on voit, c'est que c'est la plus tendue. C'est que dans les services, la personne est à peine sortie du service, qu'il y a déjà quelqu'un qui va arriver derrière. Ne serait-ce que passer par les urgences, c'est des images choquantes, avec des gens qui attendent, des gens qui se sentent pas bien, qui décompensent, des cris, des plaintes. Même dans les services dans lesquels on est, hein, surveillances sont compliquées. Il y a des patients qui, des fois, se déperfusent et les reperfuser, ça peut prendre un temps considérable, donc c'est-à-dire un temps sans traitement, quoi. Parce qu'on essaie de prioriser du mieux qu'on peut et encore. Le premier jour, je suis arrivé à 6h, je me suis assis pour la première fois à 13h45, j'avais pas bu, j'avais pas mangé, j'avais pas été aux toilettes, rien du tout, quoi.
Un témoignage d'un infirmier rennais envoyé en Guadeloupe, recueilli par François Rosy, France Bleu Armorique. Et rappelons que le taux de vaccination dans les Antilles est faible, de 2 à 3 fois moins élevé qu'en métropole. Au total, 68,6% de la population française a reçu au moins une dose à ce jour. Eux, pour beaucoup, refusent la moindre injection et sont surtout opposés au pass sanitaire. Pour le 5e samedi de suite, hier, ils ont manifesté dans toute la France. Près de 215 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, un chiffre en légère baisse. Et parmi les 217 rassemblements recensés hier, le plus important était à Toulon, 22 000 personnes selon la préfecture du Var. Paul Tillier, vous étiez dans le plus grand cortège de France hier.
Toulon, nouvelle capitale des antipasses sanitaires, la question se pose. Certains ont ont déjà une explication.
On a tous des grandes gueules, je sais pas, j'en sais rien.
Deuxième raison, le nombre appelle le nombre. De plus en plus de manifestants chaque semaine, de quoi convaincre ceux qui hésitaient à sortir dans la rue, comme l'espoir d'être entendu. Sébastien a franchi le pas.
J'ai 48 ans, première manifestation. Je pensais pas manifester un jour, mais là je suis là. Et je serai là tous les samedis s'il faut.
Un cortège également très diversifié, des soignants, des syndicats, des motards, des groupes d'extrême droite et des familles qui défilent tous dans le calme, c'est essentiel pour Laurence.
On peut manifester en sécurité. C'est les manifestations bienveillantes. On laisse pas s'envenimer la violence. Quand il y a des agressions, quoi, on fait en sorte de temporiser. Et on a la police qui est aussi avec nous dans ce sens-là.
Un avis partagé par Claude, le mouvement ne doit pas reproduire les erreurs des gilets jaunes dont il fait partie depuis le début.
Oh mon Dieu, qu'on fait tout pour pas avoir de la violence, parce que les premières personnes qu'on perdrait, s'il y a de la violence et s'il y a une confrontation, quelle qu'elle soit, c'est eux. Les enfants, les mamans avec les poussettes, les familles.
Les antipasses sanitaires dans le cortège à Toulon veulent tenir jusqu'à la rentrée de septembre et le retour des vacances pour doubler, voire tripler le nombre de manifestants.
Un reportage de Paul Tillier, France Bleu Provence. Pour la quatrième fois en deux semaines, la stèle en hommage à Simone Veil a été vandalisée à Perros-Guirec dans les Côtes-d'Armor hier. Réaction du président, la France ne reculera pas face à l'antisémitisme, affirme Emmanuel Macron sur Twitter. Les températures montent ces derniers jours et incitent aux baignades. Trois noyades mortelles ces dernières 24 heures sur le littoral aquitain. L'une des victimes a 11 ans. En colonie de vacances, elle a disparu en Charente-Maritime vendredi après-midi. Les recherches reprennent ce matin. Les autres enfants de la colonie sont rapatriés chez eux.
Au Proche-Orient, trois mois après la guerre entre le Hamas et Israël, ambiance complexe dans l'enclave palestinienne de Gaza.
Le territoire sous blocus avait subi 11 jours de guerre. En avril dernier, aux roquettes du Hamas, Israël répondait par de nombreuses frappes aériennes, terrestres et maritimes. Plus de 270 morts au total, dont l'écrasante majorité côté palestinien. À Gaza, il manque de tout aujourd'hui, d'argent notamment pour financer la reconstruction. Alice Roussard l'a constaté en reportage dans l'enclave.
À Sher Zayed, au nord de la bande de Gaza, l'immeuble de 7 étages où vivait Yazid Abou Safié, 26 ans, est toujours à l'état de gravat. Trois mois après, avec sa famille, ils doivent louer de petits appartements pour se loger.
On a des aides qui viennent d'organisations, une aide d'urgence, du cash. Mais ce qu'on attend, c'est que la reconstruction commence réellement. On a vu l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, on a vu le bureau des statistiques. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a encore aucune idée de quand ça va commencer.
C'est le sentiment dominant dans l'enclave palestinienne. Sous blocus, l'attente, le cynisme et une reconstruction qui n'avance pas, précise Rafat Al-Majaideh.
Les problèmes de la reconstruction, c'est toujours le cas. Par exemple, depuis 2014, il y a des gens qui n'ont toujours rien reçu et dont la maison n'a toujours pas été reconstruite.
Il manque du béton, du ciment, du fer, du verre qui n'ont pas été importés à cause de la fermeture partielle du passage commercial israélien Kerem Shalom. Jawad Mahdi est le propriétaire de la tour Jala où vivaient des familles et où se trouvaient les bureaux de médias internationaux.
C'est bien plus politique qu'économique. Qui contrôle ? L'Égypte, Israël, le Hamas, l'autorité palestinienne ? On a peur de revivre la même situation qu'en 2014, attendre 6-7 ans pour reconstruire.
Selon les experts des Nations Unies, de l'Union Européenne et de la Banque mondiale, les dommages sont estimés à 485 millions de dollars. Gaza, Alice Froussard, France Inter.
Dans la région toujours, 20 morts cette nuit au Liban. Un camion-citerne a explosé dans le nord du pays, dans la région Dakar. L'ancien Premier ministre Saad Hariri dénonce une négligence. Retour en France, 9300 pèlerins hier à Lourdes, où la procession mariale du 15 août était de retour. Chiffre bas en raison des restrictions sanitaires.
La crise sanitaire qui dissuade également les touristes étrangers de venir en France cet été.
Ça se ressent beaucoup à Paris, où les hôtels ne voient pas les habituels clients russes, chinois ou américains. En revanche, les Européens, eux, sont bien présents. Louise Aura, au camping international de Maison Lafitte en région parisienne, c'est complet et la clientèle est à 70% étrangère.
C'est un camping entouré de verdure, niché sur une île de la Seine et d'où s'échappe le bruit des vacances. Thomas remonte l'une des allées avec sa fille de 3 ans. Cet Anglais réside en France, mais ses parents vivent à Manchester. Séparés pendant plus d'un an à cause du coronavirus, voilà enfin venu le temps de se retrouver.
Le grand-parent de ma fille, elle a choisi cet endroit parce que c'est extrêmement beau et il y a plein d'activités. Ici, il y a beaucoup d'espace et c'est pas comme un hôtel.
Et Roun, venu de Hollande, dispute une partie de ping-pong avec sa fille. Lui et sa femme sont vaccinés, mais les enfants pas encore. ils ont fait des choix pour cet été.
Nous voulions aller en Corse, mais du continent à la Corse, les enfants auraient dû faire un test pour prouver qu'ils n'ont pas le Covid. C'était trop de complications. Donc nous avons annoncé.
C'était inespéré, oui.
Pauline Stappers, la directrice de l'établissement.
Je pensais qu'on allait avoir du monde, mais je ne m'attendais pas à avoir autant d'étrangers. Comme on est à côté de la ville, j'avais peur qu'il y allait peut-être avoir une tendance plutôt vers la campagne. Mais au final, les étrangers n'ont pas du tout peur de découvrir Paris et de venir passer leur séjour ici. Ils ont beaucoup réservé dernière minute.
Même après un début de saison tardif au mois de juin, cet été s'annonce ici bien meilleur que l'an dernier.
Un reportage signé Louise Aura au camping international de Maison Lafitte.
Merci Raphaël Delvolvé. Un coup d'œil à présent à la fenêtre du ciel.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Et si on ouvre les persiennes aujourd'hui, Jean-Michel Golinski, eh bien on se rendra compte que la canicule est toujours présente, surtout dans les régions méditerranéennes.
Exactement, avec encore 35 à 38 degrés cet après-midi, du golfe du Lion à la Provence, de l'Aquitaine au Midi-Pyrénées, où en raison des grisailles denses ce matin et de l'arrivée d'un air quand même plus frais qu'hier, il fera 27 en moyenne le long de la Garonne et 23 sur le Pays Basque. Plus de nuages également aujourd'hui au voisinage de la Manche, poussé par un vent de sud-ouest à 50 km à l'heure, d'où des température en léger recul par rapport à hier. Il fera 20 degrés cet après-midi à Cherbourg et au Havre. Alors cet après-midi, justement, on notera des développements d'averses et d'orages du Massif central en allant vers l'Allemagne et la Suisse. Ailleurs, le soleil va rester vaillant et les températures quasi stationnaires par rapport à hier, notamment sur Lyon, Paris, Besançon, Metz ou encore à Lille. Par contre, de Rennes à Nantes, le maximum sera de 26 degrés cet après-midi contre 31 relevés hier.